Much too long, I feel it coming too on, long. The feeling's getting strong.
It's too long,
been much too long, I feel it coming too on, long. The feeling's in my bones.
Too it's too long,
been much too long, I feel it coming too on, long. The feeling's getting strong.
It's too long,
been much too long, I feel it coming too on, long. The feeling's in my bones.
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it?
Too long.
Can you feel it? Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. At last, the long wait is over. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be. To get the best of me.
Aussi de retour après la petite page de pub à l'émission chez Betty sur Radio Plus. Donc là, oui. Nous allons écouter Coco avec sa rubrique beauté.
Oui.
Nous écoutons.
Alors, vous êtes fatigué du matin au soir? Voici quelques astuces imparables. Au réveil, le cerveau reçoit une décharge de cortisol, un processus naturel tout à fait bénéfique qui aide le cerveau à fonctionner au maximum de ses capacités, apporte de l'énergie et prépare les muscles à entrer en action. Il ne faut donc pas le négliger, le réveil.
Oui, ben chez moi ça marche pas, hein. Les muscles ils sont pas en énergie. Hein.
Donc voilà, je vais te donner quelques petits conseils. Premièrement, se laver la bouche. Il est préconisé d'imiter les Japonais qui réalisent tous les jours un gargarisme à base d'eau salée ou d'eau gazeuse. Cette habitude permettrait de faire baisser de 30% le nombre d'infections ORL et de se débarrasser du mucus accumulé dans la bouche au cours de la nuit. Donc, brossage impératif des dents et de la langue avec ou sans dentifrice.
Donc, en fait, il faut en quelque sorte se laver la gorge et les dents avant de se lever.
Voilà, au réveil. Oh. Non, tu ne fais pas ça dans ton lit. D'abord,
tu dois te lever. Déjà, il faut déjà que je me lève.
Siffler pendant 30 secondes.
Siffler.
Oui.
Il faut déjà savoir siffler.
Ce son, dont la fréquence se situe entre 1 et 2,5 kHz, enverrait un message de joie aux neurones pour le reste de la journée.
Et si on chante, c'est pas pareil ?
Non, il paraît que c'est siffler, pas chanter. Ouais, chanter, ça peut peut-être être bénéfique aussi.
Aussi, ouais.
Faut essayer.
On essaiera tout.
Voilà. Cultiver l'éveil en pleine conscience.
Cultiver l'éveil en pleine conscience.
Explication.
Oui.
Alors, premièrement, lorsqu'on passe à l'état d'éveil, on reste immobile, les yeux fermés. On prend conscience de cet état sans l'analyser. Deuxièmement, toujours les yeux fermés, la deuxième étape consiste à attendre que l'envie de bouger se manifeste. On y va doucement, sans brutalité. On pose les pieds sur le sol et on reste assis sur le bord de son lit.
Alors moi, déjà les deux premiers, je m'en rendors. Hein.
Troisièmement, on se redresse sans forcer, en étant conscient de ce qui se passe dans sa colonne vertébrale.
D'accord.
Quatrièmement, on se met debout dans la posture de l'arbre enraciné. Le poids harmonieusement réparti entre les deux pieds, les yeux ouverts. Une fois conscient de cette verticalité, on attend le signal intérieur qui donnera envie de marcher. Enfin, en espérant que cela arrive. Hein.
Bah, ça,
sinon,
c'est sûr.
On reste bloqué debout devant son lit pendant des heures. Il paraît qu'au fil des jours, l'horloge interne se régule naturellement.
D'accord.
Abandonner le réveil matin. Plus traumatisant que la sonnerie de réveil, ça n'existe pas. Pire, c'est un véritable instrument de torture avec la fameuse touche snooze.
Ouais.
Seconde alerte.
D'accord.
Cette double sonnerie envoie deux messages contradictoires au cerveau. Réveille-toi, mais rendors-toi encore un petit peu quand même. Ensuite, durant cet intervalle de 5 minutes, on ne se rendort jamais vraiment. On somnole. Pas franchement top pour commencer la journée. Mieux vaut investir dans un simulateur d'aube qui permet un réveil naturel et progressif. Et c'est également un excellent booster de cortisol de réveil. Passer à l'eau froide. Non seulement 2 minutes de douche froide brûle 200 calories
ouais.
et renforce notre immunité, mais surtout, cela permettrait à l'organisme de libérer une jolie dose d'endorphine, l'hormone du bien-être.
Alors, à la rigueur, je te dirais, quand il fait chaud, ça va, mais quand il fait froid, c'est pas possible.
Il faut se donner, allez,
ouais.
se forcer. D'ailleurs, on retrouve l'eau froide dans les rituels indiens ancestraux. On peut s'en inspirer en s'aspergeant 5 fois le visage d'eau fraîche, en insistant sur les yeux, le cou et les oreilles.
Pourquoi les oreilles ?
Va savoir.
Il faudrait faire une recherche. Pourquoi les oreilles ?
Boire un verre d'eau tiède. Plus simple encore que l'infusion de jus ou de lamelles de citron, les médecines chinoises recommandent un maximum de simplicité. Seulement un verre d'eau tiède, jamais bouillante bien sûr, quand on est à jeun, une sorte de petite douche interne qui nettoie les organes digestifs et qui les aide à évacuer les toxines.
Bah, en même temps, si tu prends l'eau bouillante, t'es réveillé.
Ah, ça, c'est certain.
Voilà.
Là, oui. Faire 20 minutes de yoga, tu en parlais tout à l'heure.
Ah
du
oui.
Yoga.
Bah, ça déstresse.
On a bien retenu, après les ablutions à l'eau froide, le nettoyage de la bouche, de la langue et le verre d'eau tiède, on enchaîne avec 5 minutes de méditation. 5 minutes de respiration alternée, en inspirant par une narine puis l'autre.
Ah, ça va être difficile.
Efficace pour réveiller et rééquilibrer les énergies.
D'accord.
Bah si.
Oui, t'en bouches une.
Voilà. Puis, de respiration ventrale saccadée, qui réchauffe le corps, suivi d'un enchaînement d'une dizaine de postures parfaites pour assouplir et mettre le corps en route, et devenir calme et rayonnant.
Je ne sais pas, mais là, c'est sûr que si je viens de faire ça, je suis en retard.
Il faut s'y prendre, c'est vrai, il faut se réveiller.
Dit, là, dans la confiance en soi, il faut se lever. Alors déjà, il faut se lever 30 minutes avant, mais là, c'est plus 30 minutes, c'est 1h30. Hein.
Peut-être bien. Respecter l'écosystème de sa peau. Il peut arriver de se lever avec la peau un peu luisante et l'impression qu'elle n'est pas nette. Mais pas besoin pour autant de se nettoyer avec force de mousse, car au réveil, la peau n'a besoin de rien. Elle fabrique pendant la nuit un film autoprotecteur constitué de sueur et de sébum. Si on abîme ce film le matin, on fragilise l'épiderme. L'eau fraîche est donc suffisante, ou alors une brume d'eau florale pour réhydrater et rafraîchir, mais rien de plus.
En fait, il faudrait pas se laver alors le matin.
Juste asperger l'eau, en fait.
D'accord. Bon, bah les gens, vous l'avez plus. Voilà.
Non, si, le soir quand même.
Hein. Non, mais pas le matin.
Mais pas le matin, d'accord. Non.
Donc il faut prendre sa douche le soir, non?
Oui, voilà. La douche le soir et puis le matin, juste s'asperger d'eau. Se mettre au fitness cutané. Il y a des jours où la peau est, comment dire...
Fitness cutané.
Oui, la peau est chiffonnée, froissée, au top, quoi.
Ouais, 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 ça c'est clair.
Juste avant d'aller prendre son petit déjeuner, on applique une première étape. En première étape, les produits les plus concentrés, comme les sérums, anti-tâche, fermeté, hydratation, etc.
Alors, on ne s'est pas lavé, mais il faut appliquer...
Si, on s'est rafraîchi le visage.
Ah d'accord.
Quand même. Ensuite, après le repas, on peut appliquer sa crème de jour, mais pas n'importe comment. On masse sa peau par petits mouvements circulaires et fermes.
Donc en fait, il faut se rafraîchir, passer un sérum et après remettre sa crème après manger.
Voilà, tu vas déjeuner.
D'accord.
Ensuite, tu appliques ta crème de jour.
C'est compliqué hein, là, de se lever hein, quand même. Hein.
Ouais. Alors des passages fermes et circulaires qui vont permettre aux actifs de mieux pénétrer et de stimuler la synthèse de collagène et d'élastine. On insiste particulièrement sur les zones osseuses, le front, les pommettes et les mâchoires. Répétez tous les matins pour un effet raffermissant à long terme.
D'accord.
Et voilà, avec tout cela, vous devriez avoir une pêche d'enfer. Voilà, je vous demande tous d'essayer.
On va essayer. C'est pas garanti, mais on va essayer. Hein. C'est pas garanti.
Mais si, ça
puis moi, j'ai un truc qui marche bien. Moi, il me faut une heure déjà pour me lever, une heure pour dans le canapé pour.
D'accord.
Parce que je colmate pour boire mon thé. Et seulement après, là, je serai opérationnelle. Mais il faut pas me demander avant. Donc tout ça, ça ferait beaucoup quand même. Hein. Je peux pas passer par l'étape.
Pour toi, c'est pas le top top. Hein.
Non, non. Même en vacances.
Bon.
Du coup, on va écouter une musique sur ce.
Oui, donc alors cette fois, je vous passe « Les femmes que j'aime » de Jean-Luc Lahaye.
André, il est en train de se marier tout seul.
Il t'imagine, je pense.
Ouais, il m'imagine. Bah, c'est moi qui m'imagine, il me voit tous les jours.
Sorti en 1982.
T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Va, va. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Star de mes films secrets.
Alors nous voici de retour pour le thème de l'émission. Pourquoi les hommes ont peur des femmes?
Pourquoi donc?
Pourquoi? Pourquoi tant de violence envers les femmes? Pourquoi tant de préjugés et de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert un livre, donc justement, qui porte ce titre, Pourquoi les hommes ont peur des femmes, de Jean Cournu. Psychanalyste, enfin, j'en passe. Du coup, en faisant mes petites recherches, je suis tombée aussi sur des petits reportages d'autres journalistes où un homme a demandé à d'autres hommes ou femmes pourquoi est-ce que les hommes ne se marient, ils sont attirés, pardon, par les femmes dépendantes et au final se marient avec les femmes un peu plus simplettes, on va dire, et plus dépendantes. Et la réponse a été qu'en fait, ils ne veulent pas mettre à mal leur domination.
Oh là là. Voilà.
C'est gay, hein ?
Les pauvres.
Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Alors du coup, on va parler justement de ce bouquin, Pourquoi les hommes ont peur des femmes ? Vaste question. Adam s'ennuyait. Alors Adam a dit à Dieu, fabrique-moi l'altérité. Mm-hmm. Jusque-là, tout va bien. Ève apparut face à Adam, enfin Adam, Adam. Ils se regardèrent étonnés. Adam n'y comprenait rien. Cette chose, ou plutôt cette absence de chose, sur le corps d'Ève, le mettait mal à l'aise, d'autant que sa chose à lui, Ève, semblait vouloir en faire quelque chose. Donc, le mieux était d'admettre cette petite différence et de faire avec. Alors Adam dit à Ève de s'occuper du ménage. Pendant ce temps-là, il penserait et la protégerait, mais malgré lui, Adam n'était pas tranquille, il se méfiait.
Ouais.
Qu'elle s'occupe de sa petite chose. Donc c'est ainsi que Jean Cournu, dès la première page, annonce le thème central de ce livre. Adam constata la différence des sexes et se méfie. Que fait-on quand on se méfie ? Me diras-tu ?
Que fait-on donc ?
Eh ben, on réfléchit.
Ah.
Adam a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup pensé à cette petite différence, car il constatait qu'elle pouvait lui procurer beaucoup de plaisir, parfois tant de joie, mais aussi tant de souffrance. D'autant que la situation s'était bien compliquée. Adam s'était démultiplié. Bah oui. Et il avait fort à faire avec ses rivaux. Quand on parle de domination, on en est toujours là. Ses fils qui prétendaient l'occuper pour s'assurer la possession des femmes. Des femmes, car Ève aussi s'était démultipliée. Et vous imaginez le tourment du pauvre Adam. S'affronter à un continent, c'est déjà pas facile, mais il y a une horde de continents. D'accord, plus compliqué. Adam a beaucoup réfléchi. Il a fini par écrire un livre qu'il a intitulé « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ?» Donc, il faut lire ce livre sans trop savoir si on va accepter ou préférer l'ignorer. Mm-hmm. Surtout pour les hommes. Du coup, j'ai encore perdu le cours de mon petit papier. Alors, en tout cas, il faut lire et y réfléchir. Donc, on peut penser qu'à un moment donné, on peut demander son avis à Ève aussi, tant qu'à faire, mais l'homme va y renoncer. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Donc, voilà ce que j'ai à peu près lu, parce que j'ai pas lu le bouquin, mais au moins certaines parties. Donc, libre à toi, ô lecteur, de réfléchir à la façon dont j'ai réfléchi sur ma façon dont Adam a réfléchi. Alors déjà, là, c'est bien compliqué. Donc, cela commence par deux constats. Premier constat, tout le monde admet qu'il y a une ou des différences entre les deux sexes, que c'est même pour cela qu'il y a deux, tout le monde, sauf peut-être quelques personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour l'ignorer. Il y en a deux, notons-le bien, deux et pas trois ou quatre. Pourquoi ? Mais ces sommes tout bienvenues parce que c'est bien commode pour fonctionner comme une sorte d'organisateur universel de la différence dans la pensée et dans le langage. Le latin était particulièrement ingénieux à cet égard, après lui, les langues qui en ont hérité, dont la nôtre. Cela nous permet de sourire quand quelqu'un de la langue anglaise parle, par exemple, dit la chaise ou le fauteuil. Nous savons bien, nous, qu'il y a du masculin et du féminin là-dedans. Nous savons qu'un amour est masculin, mais que des amours sont féminines. Et Tiresia en serait bien d'accord. Lui qui pensait déjà, pour avoir éprouvé la chose des deux côtés, qu'un orgue accompagne un unique délice au masculin, mais que les délices multiples sont féminines et déclenchent les grands orgues. Second constat, partout, dans toutes les cultures ou presque, les hommes dominent les femmes. Partout, pareil. Enfin, on n'a pas vu une culture, même primitive. En tout cas, officiellement en public, dans les modes d'organisation sociale, en privé, ce peut être tout autre chose. Mais alors, Adam a l'impression qu'Ève se venge. Il a d'ailleurs le vague souvenir que quand il était petit, alors devenu grand, il se vengeait aussi. Qui se venge le plus, le mieux et comment? C'est très complexe.
Oui.
D'où la question. Si Adam, reconnaissant la différence avec Ève, l'opprime, ne serait-ce pas parce qu'il en a peur?
Peut-être.
Ben, peut-être. Tout le livre va être consacré à explorer les facettes, les expressions, les racines de cette peur, tenue pour universelle, étant admis d'ailleurs qu'on peut aimer beaucoup ce qui cause cette peur. Sans doute faudra-t-il aussi admettre qu'on peut aimer avoir peur, ce que peut-être ce livre n'envisage pas assez. C'est complexe, hein ?
Oui.
Première réponse possible à la question. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes? Parce qu'ils ont eu peur de leur mère. Une mère archaïque, terrifiante, parce qu'il subsiste en eux des fantasmes de fusion, d'engloutissement et de dévoration. Un petit peu cannibale sur les bords. Deuxièmement, parce qu'elles incarnent, pense-t-il, une sexualité animale et sauvage. Lisant cela, j'ai pensé que peut-être cette peur s'enracinait dans une peur plus fondamentale encore, la terreur liée à la pulsion elle-même. La terreur d'un débordement incontrôlé, non seulement chez la femme partenaire sexuelle, mais aussi en soi, et de façon beaucoup plus terrifiante encore, car il s'agit alors de l'horreur d'un déferlement pulsionnel explosif qui brûlerait l'être d'un coup. La pulsion peut être ressentie comme mortelle. La clinique parfois donne cela à voir. La question serait de savoir si ce fantasme est, comme on peut le croire, antérieur à la différence des sexes, même s'il est ensuite remodelé définitivement par la différence des sexes. J'ai alors entendu penser à la réflexion antérieure de Jean Cornu en ce qui concerne le débordement quantitatif. Voilà, les pulsions sexuelles, en gros. Enfin, tout le texte veut dire ça. Ensuite, les hommes ont peur des femmes parce qu'en face de cette sexualité redoutée énorme, sans frein, envahissante, ils craignent de ne pouvoir jamais les satisfaire, sauf à s'épuiser au point d'en mourir. À tout le moins, ont-ils peur que, insatisfaite, elle ne se venge.
Eh bien.
On est des guerrières.
Ouais.
Ensuite, parce que dès lors, et pour ces raisons, elles incarnent, pense-t-il, la mort. Il hésite à les aborder parce qu'ils les tiennent pour dangereuses, mais aussi parce qu'ils les idéalisent. S'agit-il d'une formation réactionnelle? C'est probablement moins simple. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bref, les femmes sont diaboliques. On pense bien sûr à la façon dont l'Église traitait les possédés du diable, comme tout accusé de se livrer sous son influence à des pratiques sexuelles abominables et de perdre par là l'homme vertueux, mais hélas, il n'est pas besoin de remonter dans le temps pour voir fonctionner cette terrible machinerie psychique. Il suffit d'interroger là-dessus n'importe quel extrémiste religieux, la femme, c'est bien le diable. Voilà pour un premier tour d'horizon, mais il est à cette peur des ressorts plus intimes à rechercher dans la psychosexualité de l'homme lui-même, car sans doute ce qu'il persécute chez la femme, c'est sa propre féminité inacceptable. Surtout à ce qu'elle implique à ses yeux de la jouissance être passivement pénétrée, une jouissance d'ailleurs qui peut alors donner la sensation que quand elle se déclenche, cela ne va jamais s'arrêter. Quel effroi alors, mais aussi, comme Tirésia, l'avait bien vu, quelle envie. Serait-elle donc capable, 10 fois plus que l'homme, de ce jaillissement d'une force vitale dont lui, l'homme, se voudrait seul capable? Bien sûr, il se rassure en se disant, même inconsciemment, que ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle n'a pas, et qu'il a, lui, son phallus, de quelque nom qui le nomme, mais qu'il conçoit comme l'instrument et la source même de cette force vitale dont il se veut principal, voire seul détenteur. Il se rassure ainsi, ou tente de se rassurer, car il se permet bien que le doute le ronge, ne serait-il pas précisément en train de se rassurer, même si Freud l'approuve, après tout, pour être Sigmund Freud, on n'en est pas moins un homme. Et ce qui alimente son doute, c'est que les femmes semblent participer toutes d'un secret qu'elles lui rendent totalement opaque. Jean Cornu écrit à ce propos « Nous voilà dans le registre du sacré, c'est-à-dire de l'intouchable, le secret, ce qui échappe à la pensée rationnelle, ce que l'on a du mal à se représenter et qui peut-être n'est pas représentable. » Je me souviens d'avoir lu un jour une nouvelle de science-fiction joliment tournée sur le thème « Les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps, mais ils ont établi leur pouvoir, un pouvoir absolu, de façon subtile en nous aveuglant de telle façon que nous ne pourrons jamais percer leurs secrets. Ces extraterrestres sont les femmes. C'est joliment tourné.
Oui, bien dit.
Voilà. Du coup, on va faire une petite pause, on va écouter une musique, le temps que ça monte ton cerveau pour tout le monde.
Oui, je vais analyser tout ça.
Oui, il faut analyser tout ça.
Donc alors cette fois, je vais passer Is It Me de Montico, sorti en 1995.
Alors écoute, on se détend et on réfléchit.
Et on réfléchit bien, oui.
Ouais.
And if the danger lies,
De retour avec notre petit sujet d'aujourd'hui, pourquoi les hommes ont peur des femmes. Donc je continue mon petit article.
Oui.
Hein? Alors attention, posez-vous, ouvrez votre cerveau et c'est parti.
Écoute.
Voilà ce qui peut se penser, se vivre, se dire et peut-être surtout ne pas se dire du côté des hommes. Il faudra, et le livre y sera largement consacré, donc le livre « Pourquoi les hommes ont peur des femmes » de Jean Cornu, en explorer les racines, les développements fantasmatiques, autant que les conséquences dans les pratiques sociales, les institutions, les arts, etc. Mais si on allait voir un peu du côté des femmes, Jean Cornu rappelle cet aphorisme des militantes du LMF. Un homme sur deux est une femme. Et je me souviens de ce joli mythe des origines. Quand Dieu a créé l'homme, elle a simplement voulu plaisanter. Coco a compris.
D'accord.
Donc, voilà.
Il a voulu plaisanter. D'accord.
Oui, puisque elle a voulu présenter. Mm-hmm. Puisque est-ce que Dieu serait pas une femme?
D'accord.
Ne sait-on jamais? Écoute, ça a été jamais vérifié.
D'accord.
Ben oui. Et du coup, voilà. Donc, partons en promenade. Au gré des rencontres, nous saluons des biologistes, des sociologues, des androphones, des anthropologues, pardon, des philosophes et des écrivains. Nous, nous saluons et passons notre chemin. À la première lecture, j'ai eu l'impression d'un peu de mélancolie d'une promenade d'automne dans un champ d'Asfoldel. C'est cette seconde lecture que j'ai compris pourquoi. Ce qu'il y ait question de la différence. La différence des sexes fonde et signifie l'altérité. Et je me suis vue alors, avec toutes ses compagnons de promenade, à la façon d'un satellite, exactement maintenu sur sa trajectoire par le jeu de deux forces antagonistes équilibrées, à savoir celle qui tend à la chute dans l'identité et celle qui expulse vers l'hétérogénèse. L'identique est au foyer. S'il l'emporte, je tombe dans un trou noir central qui m'absorbe et dans lequel je disparaîtrai dans le grand flambe-moi de la vous m'avez compris, donc de la fusion. L'hétérogène m'attire en sens contraire vers l'extérieur. S'il l'emporte, je suis éjecté dans la solitude des espaces glacés qui effraie tant Blaise Pascal. Il est donc vital que je reste sur ma trajectoire, à distance équilibrée de l'identique. Cette trajectoire, c'est celle du semblable, où je suis à la fois pareil et pas pareil. Celle où je suis moi, à nul autre pareil, et cependant identifié, identifiable à l'autre. Précisément, mon semblable. Je précise que cette métaphore qui procède d'une expérience clinique avec les enfants autistes, mais j'espère qu'elle ne sera pas désavouée du coup par Jean Cornu, car il a bien dit, notamment la double peur qui nous habite, nous avons peur de la différence qui risque de mettre en cause ce que nous sommes, mais plus encore peur de la non-différence qui risque tout simplement de nous faire disparaître. Et s'il en est ainsi, qu'est-ce qui peut le mieux activer cette double peur que la plus visible des différences, la plus signifiante et la plus incompréhensible, la plus chargée de passion, d'amour et de haine, la différence des sexes. Est-ce que vous avez tout suivi ?
Oui.
Oui.
J'ai suivi.
Oui. Il faut quand même revenir à Freud. Bah oui, il faut toujours qu'on en revienne à Freud, de toute façon. Psychanalyse de la vie amoureuse. Parce qu'il a écrit là-dessus, ouais, n'est-ce pas ? Donc, deux jalons d'abord. Le premier pose qui, c'est ce que l'homme ne parvient pas à mettre en représentation affectée, refoulable et symbolisable, qui déclenche en lui la peur, angoisse et terreur. Faut comprendre, hein. Le second jalon part des considérations freudiennes sur le narcissisme des petites différences de Jean, et Jean Cournu demande, cette petite différence dérange l'homme. Serait-elle d'aventure difficile de se représenter au point qu'il en arrive à se sentir agressé, à s'identifier à l'agresseur et à même agresser l'agresseur ? Et moi, je vous le dis, le cerveau humain est compliqué. Hein. Donc, voilà donc opportune une visite donc, au texte de 1910, 1912, 1918, groupé par Freud sous le titre général « Contribuons à la physiologie de la vie amoureuse ». Le premier décrit ce qu'on peut tenir comme une transformation de la peur de la femme. Elle doit être sauvée avant d'être, si possible, possédée. Donc on est possédé. Le second, consacré à l'impuissance masculine, et surtout le troisième, sur le tabou de la virginité, fonde cette peur dans l'angoisse de la castration, mise en forme par l'interdit de l'inceste et les interdits culturels qui le signifient. Mais à la base de cette dynamique, on trouve la peur fondamentale qu'éprouvent les hommes devant la sexualité, peur de la sexualité en tant que poussée pulsionnelle débordante, difficile à maîtriser et plus encore à sublimer. Peur de la sexualité en tant que fonction précaire, vulnérable, incontrôlable dans le meilleur et surtout dans le pire. Peur de la sexualité en tant que fonction insatisfaisante, fondamentalement par nature en raison de l'interdit qui l'entrave. Or, quel risque court-on ? Homme à suivre la pente de la sexualité, précisément le risque de laisser éclater l'angoisse de castration. Autrement dit, le danger est de devenir femme. Que voilà, comme l'a dit Graff et le professeur l'avait bien expliqué au petit Hans, or, les hommes refusent le féminin chez les femmes et en eux-mêmes parce que c'est du passif, du masochisme et du chartré. Est-ce que tu as compris ? On va croire qu'ils... Voilà. Mais, en fait, on va croire que ça va leur faire peur d'être une femme. Mais, face à la question de pourquoi les hommes ont-ils vraiment peur, la réponse freudienne, en termes de castration, paraît insatisfaisante. L'angoisse de castration ne résume pas toute la modalité de l'angoisse. Les femmes ne dévalorisent ni le féminin, ni la série, passif, maso, et certains hommes ne refusent pas systématiquement le féminin, heureusement. Mais qu'est-ce que le féminin ? Les hommes ne racontent-ils pas des histoires de castration et de peur pour éviter de se confronter à autre chose qu'évoquerait pour eux le féminin ? Qu'est-ce que donc, ici Jean Cornu, apporte le principe d'une réponse qui va être ensuite largement développée. Tout homme a d'abord été un bébé mâle. Pour lui, le féminin était d'emblée féminin maternel, féminin érotique, ce que Jean Cornu désigne comme féminin érotico-maternel. C'est, et cela restera irreprésentable et non symbolisable, mais c'est bien pour sortir de ce non-sens, cette absence de sens, d'autant plus radicale que les femmes, elles non plus, ne peuvent rien en dire. Et que peut-être il donnera à tout cela du sens en se racontant des histoires de castration, appuyées par l'autorité de Freud. Mais répétons-le, pour être Freud, on n'en est pas moins un homme. Dans l'urgence, plusieurs manœuvres seront utilisées par les hommes pour parer au danger. Nominer, figurer, la tentation est grande de se donner plusieurs définitions du féminin et de se servir de l'une pour en dévaloriser une autre. En général, ces tentatives de récupération s'effectuent plutôt au bénéfice d'un maternel qui semble avoir meilleure réputation que le féminin. Donc il vaut mieux être maman que femme.
Ouais.
Mais bien d'autres modes de défense peuvent prévaloir, ainsi des diverses figures de l'homosexualité masculine ou de la solution fétichiste ou encore face à l'agression d'une jouissance féminine supposée infinie. Les mesures qui visent à en limiter les expressions. Donc l'exclusion sociale des femmes, la mise sous tutelle juridique, voire sa source même, l'excision. Tout ceci, bien entendu, sur la base des fantasmes originaires de séduction, de castration, de scènes primitives auxquelles, sans doute, il faut ajouter le fantasme retour au sein maternel, qui alimente en représentation possible ses défenses contre la peur. Vous allez avoir mal au cerveau après. Hein.
Oui.
Mais en fait, si derrière cette peur que les hommes ont des femmes et qui les conduit à les dominer, si en arrière-plan de cette angoisse de l'irréprésentable féminin érotico-maternel flambait une envie secrète. Autrement dit, si un Cherbère sommeillait en tout homme. Peut-être, mais cette envie est en général farouchement niée par les hommes, précisément parce que cela les priverait des défenses qui viennent d'être rémunérées. Et peut-être même les femmes préfèrent-elles elles-mêmes les histoires de castration, voire la soumission aux hommes, parce que cela les sauve de leur mère. Leur mère. Mais justement, qu'en est-il de la relation de la mère et du fils ? Le troisième chapitre nous convie à une nouvelle promenade, celle-ci au pays des positions filiales en compagnie des écrivains et des tragiques grecs dans des œuvres où il s'agit d'amour, de haine adressée au féminin érotique de la mère. Bah, le dit pas en fait. Vous suivez toujours ?
Oui.
Bon, après, j'ai pas en faire trop non plus. Hein. Mais qu'en est-il de la relation mère et de la fille vue par les hommes ? C'est aussi, pressent-il, une relation intense d'amour et de haine, mais entre femmes, et par là, si mystérieuse, qu'ils ont de bonnes chances de s'y sentir quantité négligeable, marginalisée, exclue. L'homme a cependant quelque chance de se rassurer dans la problématique oedipienne, qu'il soit mari, père ou frère. Ce n'est pas facile, car il est bien le fils d'une mère qui a connu les affres de la confrontation mère-fille. Freud, remarque Jean Cornu, n'a guère ouvert cette partie du dossier. Donc Freud n'a pas parlé de cette partie. Et si le fantasme de castration n'est pas utilisable, si la logique phallique est en défaut, les hommes fils sont confrontés à une impuissance de pensée et de mise en représentation et en deçà de l'angoisse refoulante à l'horreur sidérée. Ce qui rôde, c'est le fantasme de l'inceste mère-fille au-delà de l'homosexualité féminine. Mais comment les définir ? Car je souligne pertinemment Jean Cornu, la relation mère-fille est une relation à l'identique, du féminin érotique et du féminin érotique de même sang, ce qui défie toutes les différences. Nous voici tombant dans l'orbite elliptique, aspirée par le trou noir, l'identique. C'est bien l'horreur, en effet. Pour ne pas tomber, une bonne recette, maintenir la différence par la coupure qui fait signe, ce sont les vertus du complexe de castration qui fonctionne comme une phobie permanente et structurante. On peut toujours alors sacrifier la partie pour le tout. Mais du côté des femmes, ce recours n'est pas aisé, puisque si l'on en croit Freud, le sacrifice a déjà eu lieu. La castration est déjà survenue. Qu'en est-il alors de l'homosexualité féminine pour les femmes ? Le vertige fusionnel est bien là, ce qui peut conduire à l'une des partenaires à restaurer de la différence en se posant en pseudo-mâle. Regardons du côté des anthropologues, l'exogamie qui prévaut dans certaines sociétés consiste à parer en danger en exportant les femmes. En fait, on exporte les filles et les sœurs et on garde les mères. Avantage supplémentaire, cela sépare les mères et les filles. Il y a bien sûr une meilleure solution pour nous, pour les psychanalystes. C'est celle de la mère, suffisamment bonne, qui introduit un tiers dans la relation avec sa fille. C'est la solution oedipienne.
D'accord.
C'est compliqué.
Oui.
On n'a pas tout compris.
Non.
Non, ben moi non plus. Je vous rassure. Bon, Angel, on passe une musique ?
Oui, donc alors cette fois, je vais vous passer Funny Thing de Thundercat, sorti en 2020.
Eh bien, on écoute. Alors, du coup, Coco,
oui.
Qu'as-tu compris ?
Rien.
Rien du tout.
Les hommes ont peur des femmes.
Ça, si tu, si t'as un fait avéré.
Parce qu'on leur fait penser à leur mère.
Apparemment.
Un rapport à leur mère.
Apparemment.
Ouais.
Bah, l'enfant né, homme, le premier rapport qu'il a, c'est avec une femme. Mm-hmm. Parce qu'il, du coup, il est dans le ventre d'une femme.
Oui.
Et du coup, la mère est la source nourricière et il dépend de cette personne.
Mmh.
Et comme il disait très bien dans l'article, est-ce que il va savoir la satisfaire ? Donc du coup, les autres femmes.
D'accord.
En gros.
Mmh.
Mais il y a d'autres multitudes de peurs.
Ouais.
Voilà.
Donc ça, c'est une des peurs. En fait.
C'est une des peurs.
D'accord.
Et il y en a plein d'autres.
Ouais.
On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et pas du tout sorti de l'auberge. Ça va être très long à comprendre.
C'est un vaste sujet, long.
C'est un très vaste sujet. Il y a encore je ne sais pas combien de pages.
Ouais.
Je
ne
vais pas, peut-être pas toutes les lire. Mais du coup, je vais finir par un petit truc, en fait, que j'ai beaucoup aimé, qui était vers la fin, et que je vais lire tout de suite. Donc, si les hommes ont peur des femmes, et si les femmes ont peur des hommes, fût-ce dans une problématique et des élaborations défensives différentes, ne serait-ce pas que tout être humain a peur d'un autre être humain. C'est envisager une peur fondamentale, la peur de l'autre, qu'il essaie de se dire son semblable pour se rassurer, mais cette catégorie du semblable comporte une antinomie fondamentale, c'est un instrument essentiel de la pensée et c'est indispensable, c'est un instrument de la pensée aux prises avec ses objets. De nombreuses études ont montré que l'enfant franchit une étape décisive lorsqu'il accède au semblable. Pareil, pas pareil. Au-delà de l'opposition de l'identique, c'est impensable. Comment le sujet pourrait-il accepter qu'existe un autre sujet ? Ce n'est pas par hasard que dans les mouvements de masse d'hommes animés d'une rage meurtrière contre tous les pas pareils s'en prennent d'abord à leur sein même au plus visible des pas pareils, les femmes. Adam n'a pas fini de payer ce moment de folie où il demande à Dieu « Fabrique-moi de l'altérité. » En gros. Voilà. Donc, en fait, ça va plus loin
oui.
que le fait d'être une femme. C'est juste parce qu'on n'est pas pareil.
Ah, ben, c'est chaud.
Donc, vous avez à réfléchir.
C'est mon cerveau qui travaille.
Ouais. Mmh. Vous avez à réfléchir sur...
Bien analyser tout ça.
Bon, ouais. Mmh. C'est de la psychanalyse.
Voilà.
Donc, ça, du coup, ouais. Voilà. Vous aurez mal au cerveau, mais c'est pas grave. Fallait savoir. Vous pouvez aller lire le bouquin. Ça s'appelle « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ?» de Jean Cornu.
Ouais.
Donc, c'est très, très détaillé. Mais alors, c'est très écrit comme un psychanalyste peut l'écrire. Donc, il faut bien parfois relire plusieurs fois. Mais c'est hyper intéressant.
D'accord. Bah oui.
Il faut aller.
Ça peut c'est donner tout. Une petite idée.
Bah, exactement. Chose. Essayez de comprendre pourquoi les hommes ont peur des femmes. Alors, il y en a qui vont nous dire « Non, j'ai pas peur, non, moi, j'ai pas peur. » Alors, c'est possible, hein, mais en gros, voilà pourquoi.
Ça peut être une réponse.
Ça peut être une réponse.
Oui.
D'arrêter de martyriser les femmes. Parce qu'on n'y peut rien.
De comprendre le pourquoi.
Voilà, exactement.
D'accord.
Donc, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Avec l'élection Miss Courbe Nord-Pas-de-Calais.
Ouais, yes.
Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Et puis, Ophélie sera là, en fait, pour nous parler des légumes de saison. Justement, puisque ça va bientôt être la période d'Halloween.
Yes, Halloween.
Donc, on parlera de tout ça. Et le 14 septembre, du coup, on parlera d'Halloween. D'où ça vient, le pourquoi du comment, comment vous préparer, vous maquiller, quelles sont les idées et la tenue, ben, en fait, à la mode pour Halloween. Donc on vous dit à bientôt.
À bientôt.
Et passez un bon mercredi.
Bye.